Le Loft Musique Sud Radio, l'événement du jeudi.
Ce soir, je pars à la rencontre d'un humoriste ch'ti qui cartonne. Il s'appelle Jean-Phi Janssen. C'est l'événement du jeudi dans le Loft. Après Jane Birkin la semaine dernière, eh bien, j'ai rencontré Jean-Phi Janssen. Je suis allé parler de musique avec lui autour de sa sélection de chansons. Il est en pleine tournée, Jean-Phi Janssen. Je vous donnerai ses dates en fin d'émission.
Allô,
allô.
Oui, Jean-Phi Janssen.
Oui, c'est lui-même.
Oui, c'est Yvan de Sud Radio.
Ah, Yvan, ben.
Et alors, on se retrouve où?
Ben au coin, là, au bar des amis, il va boire un coup, je t'attends.
En face, là, ouais. Je traverse le boulevard.
Exactement, je t'attends.
Bon, super. Là. Allez, on parle musique. J'arrive, à tout de suite, Jean-Phi.
À tout de suite, mon lapin.
Sud Radio. Sud Radio. Loft musique.
Yvan Cujus.
C'est marrant, mais c'est trop dur à expliquer la mécanique du rire. Hein. Comment on fait marrer? Bah, c'est drôle, j'y arrive pas moi à l'expliquer. Par exemple, il y a des gens qui font rire juste en respirant, juste en lisant, juste en dormant, juste sans rien faire. J'ai beau relire Bergson, je comprends pas bien l'affaire, il y a rien à faire. Tiens par exemple, Jean-Phi Janssen, j'ai presque envie de sourire rien qu'en prononçant son nom. Comme disait Coluche, rien que le nom m'amuse. Bah, certainement parce qu'en disant Janssen, en bon pavlovien que je suis, les images m'arrivent à 300 à l'heure. J'entends le ch'ti accent du Nord. Après, j'avoue que je comprends pas bien les gens qui ont un accent, quel qu'il soit. Moi, je crois que quand on parle à la radio, à la télé, faut les gommer, les accents. Faut parler parisien, pas provincial, quoi, parce que ça fait vite cutéreux, voire même un peu bouseux. Hein. Et ça empêche toute réussite dans le métier, ça c'est sûr. Janssen, alors pourquoi il a réussi? Ben, j'en sais rien du tout. C'est peut-être une exception avec son accent ch'ti qui fait rire sans quasiment rien dire. À peine il dit bonjour. Parce que s'il a autant de succès, Janssen, s'il a réussi, c'est qu'un public qui, avec tendresse, sourit à demi, est un public qui est déjà à moitié conquis.
You fold into me like nothing before. I know your past is all out of control. You mean much more to me. You know you do. I try. Something you care just enough to leave me hanging. You leave me terrified. You know you do. Oh, I would love another sunrise. Oh, I can't say it's such a surprise. You really get me going. Then you leave me hanging. I really condone it. All right. Oh, I would love.
Love another sunrise. Oh, I-
Jean-Phi Janssen ce soir dans le Loft Music à l'instant. Arigato Masai, Sunrise. Salut Jean-Phi Janssen.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Parle-moi de cet Arigato Masai que tu as voulu pour ouverture de cette émission, moi Jean-Phi.
Ah bah écoute, c'est très récent. J'ai découvert ce groupe très récemment. C'est mon régisseur son qui mettait cette playlist avec l'album d'Arigato Masai pour faire patienter les gens avant que je rentre sur scène. Et je suis tombé amoureux, et notamment d'une anecdote qui s'appelle Sunrise. Et c'est deux gars qui font de la musique électro et qui font des collabs. Collaboration artistique avec RCT, une chanteuse en vogue, donc je ne connais pas forcément le nom parce que c'est pour ça que je suis très bête, mais j'adore ce morceau. Et en plus, ce morceau, pour moi, que chaque fois que je l'écoute, c'est mon avant-entrée de scène. Voilà, je sais que c'est ça que j'entends dans les coulisses avant d'entrer sur scène. Alors là, c'est une musique qui me rassure.
Quand tu viens de l'entendre, là, je parlais tout à l'heure en introduction de réflexe pavlovien, quand on est conditionné, ça t'évoque le même stress que l'avant-scène quand tu écoutes la musique?
Non, c'est une musique qui me rassure avant que je rentre sur scène, parce qu'avant de rentrer sur scène, bien sûr, je suis traqueux comme beaucoup, mais ça fait partie d'un rituel. Voilà, il y a ma boîte à gris-gris, je vérifie que toutes mes choses sont en place, et il y a la musique qui m'indique c'est l'indicateur temps et l'indicateur stress. À ce moment-là, c'est juste avant d'entrer sur scène.
Il y a une superstition, si t'as oublié de mettre un truc en place, tu te dis que ça peut mal tourner?
Ah mais tout, mais tu savais que je suis conditionné par la superstition.
C'est-à-dire?
Ah ouais, j'ai ma boîte à gris-gris et si ma
boîte... Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gris-gris?
Je peux te le dire, c'est mes
gris-gris. Allez Justin. Allez Justin.
Ben non, la culotte de mon ex.
Non, je vois le genre.
Mais c'est des choses sentimentales, c'est des cadeaux, c'est des choses que ma mère m'a donné, des choses que des gens m'ont donné, des choses que je considère qu'il y a une valeur sentimentale et qui me portent bonheur. Voilà. Et si je n'ai pas cette boîte à gris-gris avec moi dans les coulisses, je ne peux pas jouer. Voilà.
Ah, c'est... carrément, tu pourrais annuler le spectacle si tu l'as
annulé,
pas.
Annuler, non, mais alors je le jouerais, mais
tu
mais
serais
très
mal.
Je serais décontenancé, je crois.
Ouais,
voilà.
Ouais,
t'es arrivé une fois de l'oublier, on est allé la rechercher vite fait à l'hôtel, mais tu vois, c'est comme, je passerai pas sous une échelle, ni sous un échafaudage. Je ferai, mais même s'il doit faire tout le tour, alors, je me dis, alors c'est con parce que passer sous une échelle, mais je me dis, ça me coûte rien de passer à côté. Ouais, donc, je fais ça,
dans le doute, tu préfères passer à côté.
Ah ouais, ouais, si je mets un chat noir, je suis pas bien. Si je balance du sel, alors faut que je m'en jette sur l'épaule.
Ah, ouais,
fois, j'ai cassé un miroir chez moi, j'ai cassé un miroir. Et tu sais, on dit que c'est celui qui ramasse les morceaux qui a ses temps de malheur, tu vois.
Ouais.
Et ben, j'ai ramassé les morceaux, mais pour conjurer le sort, il faut jeter ces morceaux de miroir dans de l'eau trouble. Et ben, à 2h du matin, j'ai été jeter mon miroir dans la Seine, dis donc.
Ah oui, mais... c'est quand même un état.
Ah oui, je suis bien conditionné.
On y va bien, là.
Bien perché quand même.
Jean-Phi Janssen, la place de la musique dans ta vie. Alors, on vient de savoir, d'apprendre que cette chanson te met dans des bonnes conditions avant d'entrer en scène.
Ouais.
Mais sinon, au quotidien, à quelle place la musique?
Oh, elle est assez présente. Hein. Je me lève le matin, c'est la radio, c'est de la musique. C'est après j'ai quelques playlists. Les soirées que je fais chez moi avec des amis, il y a toujours un fond de musique. Et c'est de l'ambiance. Et quand il y a plein de musique, ça m'angoisse en fait. C'est ça. Il faut qu'il y ait une ambiance quand j'ai des invités à la maison. Faut pas qu'il y ait le silence en fait. Une musique même très douce, mais en fond.
Mais c'est plutôt un fond pour toi. C'est pas quelque chose que t'écoutes de manière religieuse. C'est quelque chose qui vient meubler comme ça un contexte.
Oui, dans la salle de bain où il y a des choses. Ouais. Qui filent la pêche et d'autres qui filent la banane. Et après, il y a des chansons pour faire l'amour aussi. Hein.
Oui, pareil, même quelle, par exemple
des chansons à faire l'amour, je sais pas.
Le mec qui écrit une chanson, il dit celle-là, ce sera pour faire l'amour.
Mais il y a des chansons que tu sens plus sensuelles que d'autres, tu vois. Il y a des rythmes, ça donne des rythmes.
Je vois tout
et
à
c'est
fait
important d'avoir des rythmes.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que, par exemple, cette deuxième chanson que tu as choisie, Viens, c'est une prière pour viens, être une chanson, une chanson d'amour, Marie Laforêt.
Non, ça c'est une chanson qui m'émeut. J'aime Marie Laforêt et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et c'est Laurent Ruquier qui m'a fait découvrir Marie Laforêt,
ouais.
Et sa discographie. Et cette chanson, je m'en suis rappelé parce que ma mère l'écoutait, et je me suis rendu compte que cette chanson était de mon année de naissance.
Ouais.
Et donc j'ai commencé.
73, donc
exactement,
c'est ça.
Ouais. Oui, l'année du choc pétrolier. Voilà, c'est ça.
Et puis d'autres choses, ouais.
Voilà, et j'écoute cette chanson, elle me donne les frissons. Ouais, c'est une chanson chargée d'émotions, je trouve.
On l'écoute.
Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens. Que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille,
que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, en septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens, vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière, reviens, viens, pas pour moi mon père, reviens, viens, reviens pour ma mère, reviens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, tu souris mon père. Viens, viens, tu verras ma mère. Viens, viens, et plus belle qu'avant, 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 qu'avant.
Marie Laforêt, viens, c'est une prière, en 1973, l'album éponyme de Marie Laforêt, qui nous ramène à cette décennie comme ça, où c'était vraiment la variété qui dominait, ce qu'on appelait la variété, les émissions de Mariti, Gilbert Carpentier, etc. Ça, c'est un souvenir certainement aussi Madeleine de Proust, quoi. On revoit les images, les samedis soirs devant la télé, avec papa, maman.
Ça rappelle des moments familiaux, ouais. Et les samedis soirs devant la télé, et puis c'était toujours coloré, il y avait toujours tous ces artistes qui se mélangeaient et qui s'essayaient à des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Chanter des chansons des autres ou des mini-sketchs. Il y avait vraiment de la créativité, quoi, à l'époque.
À cette époque-là, tu étais loin d'imaginer le parcours qui allait être le tien, et notamment artistique, Jean-Philippe Janssen.
Ah, ben tous les parcours qui auraient été les miens, j'étais loin de les imaginer.
Oui, y compris celui de Stewart, qui est ton premier accès à la vie active, ou en tout cas un accès qui te fait avoir une carrière assez longue dans l'avion, en l'air.
Ouais, c'était pas des convictions d'enfant. J'ai jamais pensé, étant petit, être Stewart. Non, c'était pas. Et même être humoriste, hein, c'est les hasards de la vie.
Mais est-ce que l'objectif final, c'était justement d'être artiste, et que Stewart, c'était un intermédiaire qui te permettait d'atteindre l'artiste?
Non, non, parce qu'avant d'être Stewart, j'avais un magasin de fringues. Avant d'avoir un magasin de fringues, j'avais un élevage de chapersan. Donc, tu vois, tout
un
était...
élevage de chapersan.
Mais, tu vois, c'est... dans ma vie, rien n'était logique. Et en fait, tu sais, moi, j'ai un principe de vie, c'est l'aventure est au coin de la rue. Voilà. Et donc, ça m'a amené des fois à vivre des choses formidables ou des choses tarabiscotées, mais ça m'a toujours mené à quelque chose et j'en ai toujours tiré quelque chose. Et j'avais mon élevage de chat, ça n'a pas marché, je me suis planté. Après, j'ai eu un magasin de fringues, ça n'a pas marché, je me suis planté. Donc c'est mes échecs qui à chaque fois m'ont fait rebondir sur d'autres choses, parce que je crois à la vie et je suis optimiste. Donc je me suis dit, si c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est ça qui m'a amené dans un avion, et c'est l'avion qui m'a amené à la scène.
Alors on pourrait dire que t'as atterri en devenant artiste, ou que t'as encore plus décollé?
J'ai toujours l'impression d'être en l'air. Je suis pas redescendu encore. En tout cas, je m'en délecte. Hein, mais la fulgurance de la carrière après, à partir du moment où j'ai fait de la radio, ça a été quelque chose d'incroyable. Donc ça a été vraiment.
Quel est le déclic déterminant, finalement, avec le recul, qui t'a fait basculer, qui a été la chance de ta vie, si je puis dire, pour accéder à ce métier?
Je crois que c'est le tout début, le printemps du rire à Toulouse, un concours d'humoriste.
Au Zénith.
Ouais, où on m'inscrit. Ouais. Une copine hôtesse, hein, parce que moi j'avais pas décidé, c'est une copine hôtesse qui me dit, mais non, t'as plus le choix, je t'ai inscrit à ce concours, t'as plus qu'à y aller. Et j'ai écrit mon premier sketch, mes premières 10 minutes. On était 900 candidats au départ et j'ai fini finaliste. J'ai pas gagné, j'ai fini finaliste et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec ce que je raconte. Et donc j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. Mais ça a été pour moi ce qui m'a permis d'avoir le déclic en disant, tiens, humoriste, tu peux aussi faire, parce que finalement ce que tu racontes n'intéresse pas que les gens en l'air, ça intéresse aussi les gens au sol.
Et c'était quoi ce que tu racontais? C'était ta vie? C'était quoi à
oui,
ce moment-là?
Ma vie. Le premier sketch, c'était un sketch où je racontais comment j'avais emmené ma mère en voyage, en vol avec moi à Air France pour qu'elle découvre mon métier et que ma mère avait été surclassée en business. Et tu voyais très bien qu'elle n'avait rien à faire en business. Et même elle a été perdue, elle ne maîtrisait pas du tout son environnement. Et donc ça a donné lieu à des situations détonnantes dont l'équipage se souvient encore. Ouais.
Tu aurais pu être chanteur finalement? Quand tu dis je me suis aperçu que j'étais humoriste, tu aurais pu t'apercevoir que tu étais chanteur?
Oui, non, mais alors ça, pour avoir essayé de chanter des fois, je te dis que non. Non, je pense pas. Je pense que je me suis pas trompé.
Qu'est-ce qui t'a séduit à toi en étant sur scène? Qu'est-ce qui a été aussi déterminant qui t'a permis de dire je veux faire ça?
Faire rire, c'est quelque chose que j'aimais déjà faire dans les avions. C'était génial. En plus, j'avais un public et ils étaient obligés de m'écouter, ils pouvaient pas sortir.
Et qu'est-ce que tu faisais pour les faire rire dans les avions? Quand t'étais au micro, t'étais sur quelle compagnie?
Non, j'avais pas de micro dans l'avion, mais je faisais du long courrier, donc j'avais le temps. J'étais 15 heures dans l'avion avec les personnes. J'ai le temps d'aller voir de créer du lien et d'aller voir les gens.
Il y a un public, c'est un public captif, l'avion aussi. T'as des gens à qui tu peux. Voilà,
t'as des gens qui sont là enfermés pendant 15 heures, qui se font chier et qui doivent s'occuper. Donc, moi, j'allais parler. J'aime bien le contact. Et on fait pas ce métier si on aime pas les gens. Donc, j'avais ce goût d'aller parler aux gens et de les détendre, de les faire rire s'ils étaient stressés, ou même s'ils étaient pas stressés, juste pour parler, créer du lien. Et je racontais des anecdotes et je rassemblais les anecdotes que je vivais dans les avions ou en escale. Et je racontais ça aux gens et ça les faisait rire. Mais je pensais pas que c'était déjà des sketchs, mais moi, c'était ma nature était de faire rire. J'aime faire rire, je tiens ça de ma mère.
Jean-Philippe Janssen, tu as bien analysé tout ça en fait. On a l'impression, c'est vrai, hein, tu sais d'où tu viens, où tu vas certainement.
Ouais.
Tout est assez clair, j'ai l'impression. T'es un mec lucide, Jean-Philippe Janssen.
Je sais pas si je suis un mec lucide, mais en tout cas, j'essaye toujours d'analyser d'où viennent les choses chez moi, pourquoi ça se fait comme ça.
Alors, d'où vient Résiste de France Gall en 81, de l'album Tout pour la musique qu'on va écouter?
Parce que plein de fois dans ma vie, et comme la vie de beaucoup de gens, je pense, hein, t'as des situations où la vie, elle est parfois adverse et des fois tu dois résister parce que tu t'en prends plein la gueule pour pas un rond et malgré tout, il faut continuer. Et moi, j'ai ce côté optimiste en disant tu peux pas être plus bas, de toute façon, tu peux que remonter, tu vois. J'ai les huissiers, j'ai remonté saisi ma maison, j'ai eu un passé quand même. Hein. Et à chaque fois, je me suis dit tiens bon, tout ça n'est pas pour rien, il va se passer quelque chose. Donc, résiste.
Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
voix de Jean-Phi Janssen qui est dans ce Loft Music, extrait de Tout pour la musique. Il y a un univers très fort chez France Gall, quelque chose de très marqué, de très singulier aussi, qui te ramène à cette période encore, des années 80.
Oui, France Gall, Michel Berger, l'époque Balavoine, c'est des chansons à texte, c'est des chansons où le texte est plus important que la musique, et j'aime les textes, et tu t'aperçois qu'ils étaient peut-être précurseurs, parce qu'elles n'ont pas pris une ride, ces chansons, c'est toujours d'actualité, et finalement, ils étaient déjà en avance sur leur temps, je trouve.
On se retrouve avec toi, Jean-Phi Janssen, juste après ça, pour parler de quelques choix musicaux que l'on écoute avec grand plaisir.
Sud Radio, Loft Music,
Yvan Cugios.
Jean-Phi Janssen dans le Loft Music ce soir. Quand je vois ton palmarès, mon Jean-Phi Janssen, je suis épaté. Finaliste du Montreux Comédie Contest en 2014, coup de cœur jury du Festival Valberg. On parlait tout à l'heure du Printemps du Rire à Toulouse, prix de l'humour du public à Mâcon 2017, etc., etc. Ça, c'était un passage nécessaire pour être repéré. C'est toi qui t'es dit délibérément, je vais faire plein de concours pour qu'on me remarque.
Hein. T'es obligé, quand tu veux être humoriste, on te remarque pas comme ça. Le seul moyen de faire se connaître, c'est d'aller partout où on a voulu de moi. Et le seul moyen d'être connu, c'est de faire des concours et de peut-être pas de cumuler des prix, mais de se faire connaître à un public qui ne te connaît pas du tout. Moi, j'ai fait tous les endroits où on voulait de moi, toutes les foires au boudin, tous les partout où on a voulu de moi en France, je suis allé.
Foire au boudin, mais le cassoulet à Castelnaudary, la foire aussi.
C'est important de faire tous des festivals, des choses comme ça. Et les concours et les tremplins, c'est une chance incroyable pour un humoriste de pouvoir se faire connaître et commencer à se faire un petit nom.
Ouais. Ça veut dire qu'il y avait une détermination qui, certainement, un des traits de ta personnalité, t'es un mec déterminé, quand tu veux un truc, t'y arrives.
Il y avait une abnégation, c'est-à-dire que j'ai fait le sacrifice à un moment, faut prendre un risque, j'ai mis mes couilles sur le bio comme on dit, j'ai arrêté Air France, j'avais plus de salaire, j'étais en sans solde et le défi était d'en vivre, voilà, il fallait en vivre. Et donc pour en vivre, eh ben, il faut relever les manches, y aller, il faut tracter, parce qu'au début on se produit tout seul, on paye ses affiches, ses flyers, la location du théâtre, on paye tout. J'avais pas d'argent, mais je creusais mon déficit au fur et à mesure, mais je payais en croyant, en me disant il va se passer un truc. Je crois que la galère fait partie du parcours de l'artiste.
Ça veut dire que quand on veut, on peut finalement, quand on t'entend, qu'on a une forte détermination comme la tienne, on y arrive forcément. Qu'est-ce qu'il faut en plus ?
Je fais pas de généralité, j'applique pas ça à tout le monde. Moi, je sais que ça n'engageait que moi. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants. Si je me plantais, c'était que moi. Voilà, ça n'impliquait personne d'autre et ça mettait personne dans la mouise. Mais fallait-il y croire ? Voilà, c'est ça. Et la galère, ça m'a prouvé ma détermination parce qu'à aucun moment je me suis dit retourne. J'ai eu des doutes, mais je savais qu'il y avait un petit truc. Je voyais que même quand il y avait 5 personnes dans la salle, parce que c'est arrivé, que ces 5 personnes, elles sortaient satisfaites et elles étaient enchantées. Donc je me suis dit, il suffit de trouver le moyen se faire connaître, mais mon texte est bon. Voilà, c'est ce que je me disais.
Vanessa Paradis, pourquoi Tandem, cette chanson merveilleuse de Gainsbourg,
ouais,
en
parce
90.
Que Gainsbourg, justement, et que je trouve que c'était une des meilleures périodes de Vanessa Paradis, et j'ai un souvenir du clip qui, aujourd'hui, je trouve encore indémodé. Voilà, ces images très sensuelles en noir et blanc du clip de Tandem, je sais pas si tu te souviens,
oui.
Mais voilà, et puis c'est sa période un peu rock, et puis quand même, Vanessa Paradis, elle peut se targuer d'avoir eu un album écrit par Gainsbourg, à chanter avec Lenny Kravitz. Enfin, quelle carrière pour une petite qui est partie de Joe le Taxi. Donc,
petite Lolita, comme ça, un peu naïve en apparence, qui finalement s'est révélée quelqu'un de très.
Finir la femme de Johnny Depp, même s'ils ont divorcé.
Ouais, absolument. Très lucide aussi.
J'aimerais bien avoir la même carrière.
On écoute
Johnny Depp si tu m'entends.
Visage, on m'envisage comme
Vanessa Paradis, Tandem, extrait de Variation sur le même thème, T'IME, 1990, c'était Serge Gainsbourg. Pour cette Vanessa Paradis qui fait partie comme ça des choses que tu écoutes, ou en tout cas, est-ce que des fois dans ton quotidien ou dans tes soirées, tu vas chercher des chansons en particulier pour répondre peut-être à une humeur du moment, soit un état un peu, comment dirais-je, de déprime ou de mélancolie ou bien de grande joie?
Oui, alors on dit toujours qu'on cherche des musiques et des chansons en fonction de ses états d'âme et son état d'esprit. C'est un peu ce que je fais. J'ai pas l'occasion d'écouter souvent de la musique parce que j'ai pas beaucoup de moments d'oisiveté, mais lors de mes voyages, parce qu'en tournée on se déplace beaucoup et il y a beaucoup d'heures de route, d'avion, de train, là j'ai mes petites playlists et j'écoute mes petites musiques du moment. Selon que je suis triste, joyeux ou mélancolique.
C'est étonnant, je parlais de l'accent tout à l'heure en introduction. Ton rapport à l'accent, et en tout cas cet accent arrive dans des moments, des intentions de ton discours bien précises, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu peux parler avec un accent assez neutre et tout d'un coup quand tu t'emballes ou que tu vas faire une vanne, c'est l'accent ch'ti qui arrive.
Et c'est marrant, c'est des automatismes. Mais, parce qu'au début, on m'a souvent demandé de le gommer cet accent, notamment dans mon métier, hein, quand j'arrive à Stewart, parce qu'un Stewart qui parle comme ça, je ne vois pas bien.
Mais, un chirurgien aussi, tu vois.
Oui, toi, ça sera moins crédible d'un coup, tu vois.
Je vais vous enlever la vessie.
Oui. Ou quand tu vas demander un découvert à la banque, tu m'as dit, ouais, je peux avoir un découvert. Hein. Tu dis, excusez-moi, serait-il possible d'avoir une facilité de caisse? Donc, je sais pas, c'est au moment où je trouve que ça donne un aspect convivial à tout ce que je veux dire. C'est comme l'accent canadien. Et j'ai remarqué que dans l'avion, quand on m'a demandé de gommer l'accent, t'étais formel, c'est très ennuyeux, très rébarbatif tout de suite. Mais j'ai remarqué qu'avec les gens, sitôt que je prenais une pointe d'accent pour leur parler, leur annoncer un truc, ça rendait les choses plus joyeuses, plus conviviales et les gens appréciaient.
Comment donc, t'expliques ça, justement? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ce que quelqu'un qui a un accent soit peut-être plus sympathique ou qui crée facilement un lien avec les gens?
Parce que l'accent c'est terroir et le terroir c'est authentique et du coup c'est authentique. Ça veut dire que c'est sans mensonge en fait, c'est sans fioriture, c'est naturel. Voilà,
Ça veut dire que le milieu dans lequel tu es maintenant aujourd'hui est moins comme celui-là? Il y a plus de fioriture? Non, attends, je ne crois pas.
Ah, mais le milieu. Si, il y a c'est ce que j'appelle ce parisianisme. C'est... tu vois, c'est quoi? Voilà, c'est la différence.
C'est un peu plus pincé, cul-pincé, si je puis dire.
Bah, je dirais pas cul-pincé, mais plus formaté. Voilà, il y a des espèces de codes de langage, de choses à dire ou à ne pas dire, de choses superficielles un peu. C'est un peu déstabilisant au début quand on arrive.
Alors justement, il y a eu des moments où tu étais un peu impressionné, où tu étais complexé, t'osais pas ou...
Ah mais au début, et puis encore maintenant, sur certaines situations, je suis encore très très impressionné de rencontrer certaines personnes ou d'être dans certains milieux. Au début, j'avais juste la peur de... Je voulais absolument ne pas décevoir ce qu'on avait cru en moi. Je voulais être à la hauteur. Mais de temps en temps, j'avais toujours ce recul parce que je sais d'où je viens et j'ai une vie avant. Quand j'ai tourné avec Danny Boone, est-ce que tu te rends compte avec
qui
tu es en train de tourner?
Qui t'a mis le pied à l'étrier pour un premier film. Enfin, ouais. Tu as fait deux films, je crois.
Un seul pour l'instant. Je t'entends.
Et en tout cas, Danny Boone t'a repéré, t'a confié un petit rôle, t'as écrit un petit rôle sur mesure.
Il a écrit la scène. Le film était déjà bouclé, le scénario était déjà bouclé. Et il a écrit la scène pour moi. Avec ça, j'étais très flatté. Et puis en plus, que quelqu'un, Danny Boone, qui pour moi est une icône, me reconnaissent, c'était un beau cadeau, vraiment un beau cadeau.
On écoute Véronique Sanson, Longue Distance, un de tes choix, Jean-Philippe Janssen, on en parle juste après.
On était longue distance depuis bien des années, fatal, simplement fatal, vital. Et j'ai payé les flammes qui nous ont séparés. En cavale, très mal. Et je t'aime, oh je t'aime, je t'aime tout doucement. Ça te pousse aux amours éphémères, même si ta mère un peu partout. Tous les gens qui vont sans fin jusqu'à trouver une main comme l'amour qui nous vient enfin comme une miette de pain, petit trésor entre nos mains, parfum de pain loin. Mais dans l'indifférence, on n'avait pas une chance. des montres en avance et toujours longue distance. Trop tard pour les réparer. Bonne chance. Et je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Ça me pousse aux amours éphémères, même si mes fers me brûlent un peu partout. Tous les gens qui vont sans fin jusqu'à trouver une main qui fait battre, qui fait trembler mes claviers devant nos peurs. Pour les gens qui sont loin, pas à portée de main, à cheval sur un fleuve vivant qui est bien plus long qu'avant, dans mon cœur et dans mon sang. Ah, 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 ah.
Véronique Sanson, longue distance de l'album éponyme en 2004. On est avec toi, Jean-Philippe Janssen. Quand on joue à la maison, il y a peut-être, comment dirais-je, un stress particulier, supplémentaire, Jean-Philippe ?
Non, et au contraire, il y a une joie particulière parce qu'on joue à la maison et que les gens du Nord ont ça pour eux, c'est que quand il y a quelque chose de chez eux qui marche, ils en sont fiers et ils le mettent en avant et ils le poussent. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Iris Mittenaar et c'est ce qu'ils font avec moi. Parce qu'on a tellement parlé du Nord mal, comme une région sinistrée, comme tous les faits divers, ça se passait là-haut, que Danny Boone a déjà redoré le blason du Nord.
Beaucoup.
Et en plus, donc, quand il y a quelque chose dans le Nord qui marche, ils en sont fiers et ils en sont fiers tout de suite et ils le défendent. Et donc, quand je rentre dans le Nord, je le sens, ce côté le petit est revenu à la maison. C'est ça, c'est le petit est revenu à la maison.
On dit communément, et c'est d'ailleurs dit dans le film de Danny Boone, qu'on pleure deux fois quand on va dans le Nord, quand on arrive et quand on repart.
Ouais.
C'est une des plus grandes caractéristiques, selon toi, de cette région et de ce rapport comme ça fort au sentiment, à l'affection et à la pudeur aussi.
Les gens, ils sont vrais, plus vrais qu'ailleurs. Je pense que le Nord, tu vois, malgré tout, c'est un milieu qui est sinistré. Tu vois, il y a toutes ces la sidérurgie, les bassins miniers, tout ça s'est cassé la gueule au même moment et ça a rendu les gens solidaires. C'est-à-dire qu'ils avaient pas, mais ils donnent ce qu'ils ont pas parce qu'il a fallu serrer les coudes. Et ça, c'est resté. Moi, mes parents m'ont enseigné ça. Et donc, moi, je le fais. Ils vous donnent ce qu'ils ont pas. Et ils se la racontent pas. Ils ont pas une Mercedes, ils ont une 4L, mais moi, ils mangent du beefsteak.
T'as grandi à Beaufort,
ouais.
Dans un petit village. Il est où ce petit village exactement ?
Il est à côté de Maubeuge, à la frontière belge. Ouais.
Et il y a une influence peut-être aussi de la Belgique, parce que là, quand on est à côté de la Belgique, on côtoie aussi une manière de vivre un peu différente de celle
Mais
de
le
celle
Nord
des Français.
Et la Belgique, c'est pareil.
C'est pareil.
On est cousins, on est très liés.
On fait la teuf beaucoup là-bas.
Oui, il n'est pas rare de passer la frontière pour aller faire la teuf ou boire sa bière ou aller chercher ses clopes, quoi, tu vois.
Ouais,
et
ouais.
Donc, pour moi, la Belgique et le Nord, c'est pareil, on se comprend bien.
Et un doc de langue en poche, en 95. Pourquoi t'es allé vers les langues étrangère, enfin c'était quoi l'idée ? Tu voulais voyager déjà ?
Non, je vais faire ma causette, hein, mais à l'époque, je voulais être attaché de presse, de faire une école privée qui s'appelait les FAP, parce que je voulais faire les FAP. Et au moment où je dois faire cette école, mes parents ont des difficultés financières, bref, c'est plus possible. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et donc je me dis, bah, c'est pareil, je vais y arriver par un biais détourné, je vais faire un DUG. Voilà, un DUG. Et donc DUG, j'étais bon en allemand, faisons un DUG d'allemand. Voilà, c'est ça. Et donc,
tu en as gardé de l'allemand, par exemple ? Tu sais dire bonjour. Je vais bien, j'espère.
Sehr gut Deutsch, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, oui.
Oh, tu vois, tu reprends l'accent chic.
Ah, oui,
c'est
oui.
L'allemand
chic. Oh, on peut être occupé demain, je vais me défendre.
Madonna, pourquoi Madonna maintenant, Jean-Philippe Janssen ?
Ah bah Madonna,
personnage sulfureux et
à l'époque,
oui, incontournable.
Je pense que c'est la reine de la provocation pour l'époque et qui a ouvert la voie à beaucoup de choses,
ouais.
Et que toutes ces Lady Gaga et Britney Spears n'ont fait que copier ce qui a été déjà fait. Par contre, elle, Madonna, je trouve qu'elle vieillit mal parce qu'elle aurait pu mieux vieillir. Elle a ouvert la porte, elle a acheté sa culotte au parc de Sceaux.
Elle l'a jamais retrouvée, pareil.
Oui, bah là on cherche encore. Après, mais je crois qu'elle est collée au plafond. Hein. Mais par contre, je trouve qu'à 60 ans, c'est un peu con de toujours vouloir toucher la chatte, quoi, tu vois. Ça, c'est alors qu'elle aurait pu vivre chiquement. Du coup, j'en suis un peu revenu, Madonna, parce que j'ai toujours été à ses concerts. J'étais un fan, fan de la première heure. Et tu payes 150 euros la place quand même pour aller la voir. Elle arrive toujours avec 2 heures de retard. Elle te traite d'enculé à la fin.
Madonna, on l'écoute.
Take my sins and wash them away. whiskey. Yeah, we can get high and we can get stoned. And we can sniff glue and we can do E and we can drop acid. Forever be lost with no way home.
C'était dans 2015, cette Madone dont on a parlé tout à l'heure avec Jean-Philippe Janssen, en soulignant effectivement qu'elle prenait quelques libertés qui n'étaient pas forcément respectueuses par rapport au public.
Ouais,
le public, il est sacré quand on est sur scène, et c'est ton cas certainement, Jean-Philippe.
Mais...
tu découvres ce lien au public, c'est assez récent pour toi.
Oui, et puis mais pour moi, tu vois, il y a les professionnels, mais il y a le public. La vérité, elle est dans la salle. La vérité, c'est les gens. Même si les pros décident que tu n'es pas à la mode, si les gens... moi, je le sais parce que je me décrirais comme un artiste populaire, mais dans tous les milieux, ça ne plaît pas forcément populaire. Mais moi, populaire, ça a toute sa noblesse à mes yeux, populaire. Donc je sais qu'il y a Paris et il y a la province.
Ouais. Tu es très disponible après les concerts, tu vas à la rencontre des gens,
toujours.
Tu signes beaucoup d'autographes et tu discutes.
Toujours.
Tu fais beaucoup de selfies.
Oui. Des selfies, des bisous, des autographes. Ça fait partie du job. Je vais voir les gens, je vais toujours au devant des gens après le spectacle.
Ouais.
Et même des fois, on organise des dédicaces avant le spectacle à la FNAC ou des choses comme ça pour aller à la rencontre du public. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
Comment se passe le spectacle, le show, en fait? Il est tout le temps fait de la même manière ou il y a une part d'improvisation?
Non, j'ai ma trame. Selon l'endroit où je me trouve et celui du public, parce qu'il faut écouter le public. Hein. Le public réagit pas forcément aux mêmes choses, aux mêmes moments, aux mêmes endroits, selon les régions. Si t'es à l'écoute de ça, tu sais vers quoi tu vas axer et ça te permet d'avoir une petite part d'improvisation ou de parler de choses locales parce que t'es au courant de l'histoire de la région et qu'il y a toujours un moment dans le spectacle. Voilà, et après je fais participer les gens, j'ai une interaction quand même avec les gens.
T'es quand même assez connu pour avoir un sens de la répartie extrêmement développé, quoi.
Bah, il paraît.
Ça se travaille, ça, la répartie, l'impro justement, ou c'est quoi? Et comment dans sa tête il faut penser comment pour être bon dans la répartie? Ça se travaille, ça, ou c'est vraiment un truc qu'il faut lâcher quelque chose?
Je dirais que mon métier de steward m'a beaucoup aidé à avoir de la répartie. Tu te retrouves toujours dans l'avion face à des gens et à des situations où il te faut une réponse et une réponse vite parce que les gens ils sont impatients et toi, tu représentes une compagnie, tu n'es pas Jean-Philippe, tu es une compagnie, tu es Air France, donc tu dois avoir la réponse.
T'étais chez Air France, hein?
Oui, oui, Air France pendant 20
AF.
ans.
Quand même.
Ah oui, ça fait des heures de vol, hein. J'ai une vieille hôtesse, tu sais. Tu vois,
ouais.
Là, j'ai fait le tour du monde. Mais je pense que ça m'a donné les réponses parce que finalement, les situations que tu vis dans l'avion, c'est des situations qui sont récurrentes, c'est toujours les mêmes, différemment, mais c'est plus ou moins les mêmes situations. Donc, tu finis par avoir tes réponses toutes prêtes que tu dégaines. Et donc, ça m'a donné la répartie. Et après, le sens du timing, c'est trouver le moment où il faut le dire. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de fois où tu as des situations où tu dis, après coup, tu dis, j'aurais dû lui dire ça. Mais non, moi, je lui dis tout de suite. Et on m'admirait pour ça. Mais je pense que c'est ça qui m'a donné les bases.
Tu étais confronté à des moments de grand flip qu'il a fallu que tu dépasses pour rassurer les gens?
Oui, deux fois ça m'est arrivé.
Quel est le moment où tu as le plus flippé, où tu as été obligé de prendre sur toi alors que tu avais peur toi-même?
C'était
pour aller rassurer les gens.
Ah oui, parce que pour les gens, quand tu es steward, tu es un baromètre. C'est-à-dire que
si tu flippes, eux là, ils se décomposent. Quoi.
Ah oui, il se passe quelque chose de pas normal, tout de suite ils vont te regarder toi pour voir comment.
Ah oui,
quel est ton
visage. Moi je fais ça.
Donc oui, mais moi j'ai souri comme ça. Toi. Même si à l'intérieur c'est la peur la plus complète.
Raconte-moi un moment où tu as vraiment flippé.
C'était des turbulences mais très très sévères entre Johannesburg et Paris.
Ah, tu t'en rappelles précisément?
Ah oui, j'ai pas oublié le vol, non. Et c'était au niveau de l'équateur, à la zone de convergence, hein. Et là j'ai vu à l'époque, hein, parce que j'ai une vieille hôtesse, c'était encore, on n'avait pas les écrans plats, c'était encore les tubes cathodiques, donc on avait des écrans centraux avec les grosses télés, et les télés se sont décrochées tellement les turbulences étaient violentes, et les gens qui les ont pris sur la tête. Après, tout ce qui n'était pas accroché, j'ai vu les gens voler, tout voler dans l'avion, c'était incroyable. Il y a des gens qui sont retombés sur les accoudoirs, qui se sont fait des frais voiture, il y avait du sang. Enfin, c'était vraiment le vol, mais ignoble. Et il a fallu dérouter, on a dérouté pour évacuer les gens blessés en Afrique, sur le premier aéroport disponible, on avait dérouté.
Et là, tu faisais moins de vannes, là.
Et là, je me suis demandé après si j'allais remonter dans un avion, en fait.
Ah ouais, c'est pas là.
Et c'est comme le cheval, il faut y retourner tout de suite, sinon après, la peur prend le dessus. Et voilà. Après, j'ai eu quelques réticences quand il y a eu le Rio Paris, voilà, le crash Air France du Rio Paris, parce que là, ça me concernait directement et ça aurait pu être moi. Voilà, et c'était ouais, la première sûr, fois que. Là, j'ai fait un transfert, ouais, c'était compliqué.
Quand on fait la comparaison, qu'on a vécu ce que tu as vécu, en tout cas, qu'on fait un métier à risque, quand on va sur scène, c'est du gâteau, quoi. Le risque, il est quand même pas présent. À part être, se dire qu'on peut être ridicule, peut-être, c'est quoi le risque sur scène, justement, selon toi ? Qu'est-ce qui te fait flipper ?
Ah, elle me fait flipper sur scène parce que je.
Si t'as un trou de mémoire ?
Oh, même pas, parce que même si ça m'est arrivé plusieurs fois.
Et t'embrouilles, tu repars, tu improvises.
Et puis surtout, je ne mens pas aux gens. S'il y a un truc qui n'est pas normal dans le spectacle qui arrive, je leur dis qu'il y a un truc qui n'est pas normal.
Donc, quand tu me dis que t'as le trac avant de monter sur scène, pourquoi t'as le trac alors ?
Parce que la peur de ne pas plaire au public, la peur que ça marche moins bien. Je sais pas, il y a toujours ce truc où je me dis pourvu que ça leur plaise, quoi, c'est ça. C'est un jeu de séduction, hein, l'humour. Hein, c'est parler de soi sans avoir à parler de soi. Mais faire rire les gens, c'est un défi. Hein. C'est facile de le faire pleurer, c'est difficile de faire rire.
Oui. Je le disais tout à l'heure en introduction, quand on dit qu'un public rit, le fait de faire rire quelqu'un est déjà un grand pas vers la séduction. C'est-à-dire que le rire est très très séduisant.
Qui rit à moitié dans ton lit. Hein.
On est bien d'accord. Hein. Tu confirmes ?
Ah oui.
Eh ben dis donc,
il y a du monde en ce moment.
Pourquoi Pomme, pour finir cette émission, sans toi en 2016, l'album En Cavale ?
Parce que je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, à un hasard, et je sais pas, j'adore cette chanson. D'abord, elle a été écrite par Vianney.
Oui.
J'aime bien ses textes en général. Et là, il y a une émotion, et puis ça me rappelle des choses un peu familiales. J'ai perdu un frère. Voilà, et cette chanson, ça me parle de ça. Hein. Donc, je trouve qu'il y a c'est une vraie révélation pour moi, ça, Pomme.
Je suis descendue du train, Paris au petit matin, sans toi. Et ce matin j'ignorais Dieu que ma vie commençait sans toi. Une sorcière je suis devenue folle, une vipère j'ai croqué la pomme sans toi, sans toi. Je dois m'y faire, j'ai sur les épaules un bulldozer et le mauvais rôle. Sans toi, sans toi. Et la nuit tombée, pour ne plus jamais pleurer, je chasse deux, trois paires de bras pour m'y réfugier, seulement le temps d'un baiser pour ne plus jamais. M'en fout la pierre, m'en fout la sirop.
2016, l'album En Cavale, le choix pour finir cette émission de Jean-Phi Janssen. Merci Jean-Phi d'être passé nous voir.
Merci à vous, merci pour ce super accueil.
Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de choses très fortes dans ce que tu dégages, et je comprends mieux pourquoi il y a ce succès montant et assez, comment dirais-je, soudain, mais qui n'en finit pas de monter. On est ravis pour toi. Salut Jean-Phi Janssen, à bientôt.
Merci Salut, beaucoup, ciao. Au revoir.
C'était Jean-Phi Janssen dans l'événement du jeudi du Loft Music. Un joli moment que vous venez d'écouter. Le 18 septembre, il sera à Dunkerque, le 23 à Rennes, le 7 octobre Annecy, le 9 Montpellier, le 13 Amiens, le 14 Lille, le 17 Louvres, le 24 ce sera Toulouse, le 25 Bordeaux et le 18 décembre Enghien-les-Bains. Merci d'être resté avec nous dans ce Loft Music. Passez une bonne soirée. Tout de suite, c'est Muriel Hermine avec Écoutons-nous. Je vous retrouve lundi soir.